C'est 23.
L'essentiel de Paul Arcand, tout ce que vous devez savoir chaque jour en moins de 60 minutes. Bonne écoute.
Je commence ce matin par le dossier du Vieux-Montréal, l'incendie. Évidemment, comme Bénédicte l'a dit, on a pu identifier une première victime, on a localisé des corps, il y a donc 3 personnes qui manquent officiellement à l'appel. Est-ce que d'autres personnes étaient à l'intérieur de l'immeuble et on n'a pas pu les comptabiliser? Ça reste à voir, mais essentiellement, c'est un travail qui est long et qui est à risque pour les équipes d'intervention. Deuxièmement, vous me posez toujours la question, et je n'ai pas la réponse, est-ce que l'immeuble était équipé de détecteurs de fumée fonctionnels? Est-ce que l'immeuble avait un système d'alarme fonctionnel? Les autorités ne répondent pas. Ce matin, je vais parler avec l'avocat du propriétaire de cet immeuble, qui s'appelle Émile Benamor. L'avocat, c'est Bergevin. Et il nous a envoyé un paquet de documents pour nous démontrer que M. Benamor est un bon propriétaire et que les relations avec l'invité que nous avions hier matin, M. Brasseur, qui a survécu à l'incendie, qui a été au grand brûlé au CHUM, mais qui est maintenant de retour, hors hôpital, était un locataire, un paquet de troubles, et qu'il avait des antécédents criminels, même connecté à une affaire d'incendie, et que c'était quelqu'un qu'on a dû expulser. D'ailleurs, il y a des décisions. Ce qu'on avait vu avant, là, et il a lui-même dit en entrevue hier qu'il a été expulsé, son bail a été radié. Donc, paquet de troubles. Et ce qu'on voit, c'est évidemment des relations tendues entre les deux. Et M. Brasseur dit qu'il n'a pas entendu d'alarme et prétend que les corridors étaient encombrés, ce que nie le propriétaire actuel. Par contre, dans le journal de Gazette ce matin, on parle d'un autre immeuble qui appartient à Maître Benamor, cette fois à Westmount. Et la ville de Westmount est en litige avec M. Benamor parce qu'il y a eu des inspections, notamment une maison de chambre, des logements. Et la ville a dû intervenir suite à des plaintes. La ville officiellement ne commente pas, mais des gens se sont confiés à De Gazette pour dire encore une fois que certains logements étaient insalubres, que des sorties d'urgence étaient bloquées, qu'il y avait de l'accumulation de neige à un certain moment sur les balcons, qu'il y avait trop de locataires dans la même unité. Et tout ça est présentement débattu devant le tribunal. Le Devoir nous parlait d'anciens locataires qui disaient que M. Benamor avait, disons, un comportement particulier, qui se pointait de bonne heure et qui pouvait être intimidant et harcelant. Alors, c'est clair que c'est quelqu'un qui a des problèmes avec un certain nombre de ses locataires et qu'il a dû, c'est vrai, prendre des mesures contre aussi des locataires qui n'étaient pas faciles également. Alors, ça nous ramène au dossier, évidemment, Airbnb. Il y a un expert, entre autres, qui dit dans The Gazette ce matin que Québec et Montréal, qui se lancent la balle là, depuis le début, ont les outils entre les mains, mais ne déploient pas les efforts voulus. Et je sais que beaucoup de gens me disent c'est pas important, ça, Airbnb ou pas. Oui, c'est important dans un sens, parce que vous retrouvez des appartements, puis un cas qui est cité dans le Journal de Montréal ce matin, où la ville a dû se battre pendant 10 ans avec un propriétaire qui était non conforme. Le propriétaire avait, par exemple, un immeuble, il y avait 6 logements, 2 locaux commerciaux, puis il a ajouté 4 logements. Et on voit ça très souvent, des propriétaires qui décident de multiplier les unités de logement. Je voyais dans un des cas, là, c'était alloué 60 pieds carrés. C'est une chambre, ça. C'est petit, pas un peu. Et les conditions font en sorte que ça devient potentiellement dangereux. Et c'est une bataille qui a duré 10 ans avec ce propriétaire. C'est un immeuble qui est situé dans le sud-ouest de Montréal. Vous pourrez lire ça donc ce matin dans le Journal de Montréal. Alors, la ministre Proulx a promis des changements à la loi et souhaitons qu'on puisse faire appliquer le règlement et que ces propriétaires pas très scrupuleux là, débarrassent. Il y a des gens qui font ça correctement, qui louent, puis c'est leur choix. Mais il y a des endroits où tu ne peux pas transformer une maison, un bloc appartement en hôtel avec un va-et-vient sans écœurer les gens qui sont autour. Et cet appel qu'on a reçu cette semaine, ça se passait en banlieue, là, où le voisin loue sa maison parce qu'il est parti. Puis c'est le party tous les soirs, puis c'est complètement dérangeant. Puis là, tu as beau appeler la police pour ta part, mais tu sais, ça fait pas des très bonnes relations de voisinage. Et ce matin, on est vraiment dans des drôles de dossiers qui concernent Montréal. La presse nous parle de taxis illégaux à l'aéroport de Montréal, comme on voit dans d'autres villes. Moi, ça m'est arrivé, là. Tu sors de l'aéroport, quelqu'un t'intercepte, veut prendre ta valise et te dit « Traverse l'autre bord, là, j'ai une auto pour toi. » J'ai vu ça à New York, j'ai vu ça à Rome. Là, on parle de l'aéroport Montréal-Trudeau. C'est une chronique de Maxime Bergeron. Je savais pas que le bureau de taxi de Montréal est disparu. Ça a fermé ses portes au mois de décembre. Ça a été remplacé. En fait, les pouvoirs ont été donnés, entre autres, aux contrôleurs routiers. Alors là, le zoo est le suivant. Vous avez des chauffeurs de taxi qui ont un permis pour aller à l'aéroport, donc prendre des clients à l'aéroport. On peut aller reconduire des gens à l'aéroport, mais ce permis-là existe. Vous avez des chauffeurs de limousine. Vous avez Uber. Et là, il y a des gens qui, pas de permis, se pointent et vont comme ça intercepter les passagers qui arrivent. Et dans certains cas, c'est du harcèlement. Puis dans certains cas, c'est quand même assez agressif. Et le touriste ne sait pas trop comment réagir. Et c'est paye comptant, puis il y a, disons, une certaine forme d'intimidation. Et là, l'application du règlement, encore une fois, est à peu près impossible. Faut que tu vois la transaction d'argent. C'est quelqu'un qui sollicite, fais penser à de la prostitution. C'est quelqu'un qui sollicite. Ben là, ça, c'est pas, tu peux pas intervenir. Alors, il y a eu des plaintes, mais probablement minimes, compte tenu de l'importance du phénomène. Et on le voit, là, en termes de plaintes, disons que 300 quelques plaintes, 374 infractions depuis le 1er janvier, ce qui m'apparaît quand même pas mal, comme de la sollicitation, des vols de clients, des stationnements interdits, de faux taxis. Ils attendent là, puis ils ramassent la clientèle. Toujours à Montréal, Radio-Canada nous parle de milliers de tonnes de verre au dépotoir, faute de recyclage. C'est un bris d'équipement temporaire, mais qui dure depuis un certain temps, qui fait qu'on ne peut pas nettoyer correctement le verre. Donc, c'est une matière qui est invendable. Qu'est-ce qu'on fait avec? Site d'enfouissement traditionnel. Et vous comprendrez que ce système qui vaut 2,5 millions connaît plusieurs ratés. Pas la première fois. Et on sait que ça a été inauguré avec quand même beaucoup d'espoir. On s'est dit ça va être incroyable, on va avoir du verre de qualité. Et puis là, on reconnaît que ça ne sera pas réparé avant possiblement le mois de mai ou de juin. Puis que c'est un équipement fragile qui demande beaucoup d'entretien. Alors, on en est là ce matin. Donc, du verre de bonne qualité, mais qu'on ne peut pas traiter correctement au centre de tri de la Chine. Et ça s'en va directement vers un site d'enfouissement. Bon, on revient sur le budget et je dirais le face-à-face entre Valérie Plante et François Legault. D'abord, le budget, on comprend qu'une baisse d'impôts, c'est surtout symbolique. C'est de dire aux Québécois, vous êtes déjà lourdement taxés, vous le serez un peu moins. Parce que dans les faits, ce qui vous reste dans vos poches, c'est quelques dollars par semaine, là. Puis c'est sûr que les gens qui gagnent plus, qui payent plus d'impôts, ce sont les gens qui vont avoir la baisse la plus importante. Si vous gagnez 100 000 $ ben vous allez avoir un montant net plus important que quelqu'un qui gagne 40 000. En pratique, quelques dollars par semaine de différence. Pas certain que vous allez le remarquer tout de suite sur la paye, ou en tout cas, c'est pas comme recevoir un chèque, là, comme Québec a fait, de 200 ou de 400 $ pour aider les plus démunis. Et M. Legault a répété hier, la classe moyenne a besoin de respirer. Ça, c'est la première chose. Puis là, les partis d'opposition disent, puis les villes, entre autres, passer d'argent dans le logement, passer d'argent dans le transport en commun, la santé mentale, on fait des grands discours quand il y a un drame, mais où sont les ressources? Est-ce que le troisième lien a disparu soudainement du budget? C'est sûr qu'il y a un certain nombre de questions quand tu regardes ça avec le recul. Pour ce qui est de Montréal, Mme Plante, hier, était bouleversée en disant que la crise du logement, c'est du vrai monde puis c'est réel. Elle a raison. Il y a une crise du logement à Montréal. Et ce sont des gens qui ne trouvent pas d'endroit pour vivre. Puis des gens qui doivent quitter Montréal parce que c'est trop cher ou c'est trop difficile de trouver un appartement qui a de l'allure. Puis dans ces circonstances-là, il y a des propriétaires qui en profitent. Pas tous, la grande majorité d'entre eux sont plus que corrects, mais vous avez, appelons ça, des requins de l'industrie, quelques vautours là, qui en profitent. Ce que Mme Plante ne dit pas, c'est le premier ministre hier qui l'a dit, en disant, il y a de l'argent qu'on vous a donné que vous n'avez même pas dépensé. Pourquoi? Parce que c'est long. C'est un processus qui n'en finit plus avec l'Office municipal d'habitation. Le Journal de Montréal a démontré que la Ville avait tendance à maquiller ses chiffres concernant la construction de logements, que les délais sont souvent interminables, que des promoteurs s'arrachent les cheveux de la tête parce que c'est compliqué avec la Ville de Montréal. Donc, c'est pas vrai que de pelleter de l'argent non-stop, on va régler la crise du logement. Puis on devrait peut-être prendre le temps de voir les processus, les procédures, pour faire en sorte qu'on puisse accélérer la construction. Et elle a raison, Mme Plante, là, que c'est du vrai monde, je le répète encore. Mais elle a une part de responsabilité dans la lenteur pour exécuter les travaux. Puis le transport en commun, on le sait, il y a un chantier qui s'en vient. Puis je comprends les villes de dire Québec se fait aller en matière environnementale sur le transport collectif, puis en même temps, on se retrouve avec des déficits. Puis vous avez même la ministre Chantal Rouleau qui dit ce matin, on connaît Mme Plante, tout ce qu'elle veut, c'est du cash. Elle veut de l'argent, elle veut de l'argent, elle veut de l'argent. Puis elle dit, c'est quand même plus compliqué que ça. D'autre part, il y a une garderie qui normalement aurait dû être fermée depuis longtemps par le ministère de la Famille. Et on s'est rendu compte que cette garderie est restée ouverte pendant des années, malgré la présence, c'est dégueulasse, je vous le dis, là, de coquerelles, d'enfants laissés sans surveillance, des enfants qui étaient carrément là, négligés. Puis là, en passant, ils l'ont même pas fermé de force, ils ont attendu que le permis vienne à échéance. Puis là, ils ont dit, on vous renouvelle pas. Mais pendant toutes ces années-là, il y a même une qui est citée, une cliente, ou en tout cas quelqu'un qui est allé, qui a dit, c'était tellement sale, j'aurais même pas amené mon chien. C'est dégueulasse. Mais tu dis, mais comment ça se fait qu'on ne l'a pas fermé, malgré les plaintes, malgré les visites des inspecteurs qui se sont répétées? Alors, il semble que, disons, peut-être qu'on avait besoin de place, puis qu'on n'osait pas. Et cette femme-là veut se partir une autre garderie, en passant. Alors, les détails sont dans le Journal de Montréal. Également, dans les autres nouvelles, il y a ce député de la région de Toronto, Anne Dong, qui, selon le réseau Global, aurait rencontré, à l'époque, le consul de Chine à Toronto, et il lui aurait dit que la Chine devrait patienter avant de libérer les deux Michael Kovrig et Michael Spavor. Et tout ça pour faire en sorte que les conservateurs ne soient pas favorisés, les conservateurs qui avaient adopté une ligne dure. Puis on était dans la foulée de l'arrestation de Mme Wang Zhu, et qui est l'héritière de Huawei. Alors, M. Dong aurait fait ces commentaires-là. Donc, il a nié, il dit que c'est pas vrai. Il y a personne qui corrobore, mais ça s'imbrique encore dans le dossier de ce qu'on appelle l'ingérence chinoise. Et tout ça arrive alors que le président Biden s'en vient au Canada. Peut-être qu'on va régler toute l'histoire du chemin Roxham. Ça reste à confirmer. Et puis, je termine avec le secteur de la santé. On a eu les chiffres hier de l'Institut canadien concernant les chirurgies. Partout au Canada, on attend longtemps et de plus en plus longtemps. Si vous attendez pour une chirurgie de la hanche, le genou, c'est interminable. Je vous donne quelques chiffres. Au Québec, 32 % des patients ont eu une intervention au genou dans le délai qui était recommandé, comparativement à 72 % en 2019. C'est majeur, là. C'est majeur. Les cataractes, même phénomène. Il y a des cas de cancer où les gens doivent attendre des semaines avant des interventions. Et ça arrive au moment où, dans le budget, on met plus d'argent, puis on promet de réduire les listes d'attente, puis on veut faire plus d'affaires encore avec les cliniques privées. Et je le rappelle, puis je pense que la plupart des gens, parce que à chaque fois que je parle de ça, ça part le débat sur le public et le privé. Puis là, je vois Radio-Canada ce matin qui présente ce qu'on sait un peu déjà, là, c'est-à-dire des comparatifs qui sont établis entre des activités à l'hôpital et dans ces centres. On veut amener les hôpitaux à être performants. Et le patient, tout ce qui l'intéresse, c'est d'être opéré et de ne pas payer. Que ça se passe chez Rockland, au 10-30, ou ben donc à Maisonneuve-Rosemont, ça le dérange pas. Il veut juste être traité. Quand t'as mal au genou, quand t'as mal à la hanche, et que tu attends depuis des années, j'allais dire, des mois tout le moins, pour être opéré, tu veux pas te lancer dans le débat public-privé. Et ça marche pas. Les hôpitaux sont pas capables de faire fonctionner leur bloc opératoire. Alors, les chiffres confirment ce que vous vivez, je dirais, pratiquement toutes les semaines.
Vous écoutez l'essentiel de Paul Arcand en 60 minutes. De retour après la pause. L'essentiel de Paul Arcand.
Il y aura point de presse autour de 8 heures ce matin des autorités concernant l'incendie dans le Vieux-Montréal. Hier, on a confirmé l'identité d'une première victime. En soirée, la découverte de deux autres corps, ce qui fait qu'il y a officiellement toujours 3 personnes qui manquent à l'appel et que les opérations, plus ça avance, plus ça devient complexe et à risque pour les équipes là, qui doivent fouiller les décombres. Maintenant, depuis plusieurs jours, on s'interroge sur les causes, la cause de l'incendie. Est-ce que l'immeuble avait des équipements adéquats, donc des détecteurs de fumée fonctionnels, système d'alarme? Hier, on a parlé avec Patrick Brasseur qui a pu s'échapper de l'incendie grâce à l'intervention des pompiers. Il a tenu des propos à l'antenne en disant, entre autres, qu'il n'avait pas entendu d'alarme et que les corridors étaient encombrés. Le propriétaire de l'immeuble, vous le savez, c'est Émile Benamor qui est avocat. Et son avocat est avec nous ce matin, Maître Alexandre Bergevin. Maître Bergevin, bonjour.
Oui, bonjour, M. Arcand.
D'abord, des questions de base, là. L'immeuble en question qui a été détruit et où les gens ont perdu la vie, est-ce qu'il y avait des détecteurs de fumée à l'intérieur?
Oui, il y avait des détecteurs de fumée dans chacun des appartements. Et même, on a des feuilles de présence et d'efficacité de chacun des détecteurs de fumée selon certaines années, là. C'est une procédure qui est mise en place par la Ville de Montréal. Et cet immeuble-là, contrairement à la plupart à Montréal, était muni d'un nouveau système central d'incendie. Et je vous ai fourni la preuve, là, j'ai échangé avec vos recherchistes, je vous ai envoyé la preuve de l'installation en 2019, des appels de service après, etc. Alors, la seule question qui se pose, M. Arcand, là, puis c'est quand je regarde le cirque médiatique qui se produit depuis quelques jours, le procès public sur la place publique de mon client, sans réellement de raison, c'est est-ce que le système a fonctionné au moment où l'incendie a débuté dans l'immeuble? C'est la seule question, puis dans le fond, ma première pensée, comme celle de tous vos auditeurs, vont aux victimes et aux blessés, puis je pense qu'avant de fabuler, de spéculer, il faudra voir la cause de l'incendie puis le trajet de l'incendie dans l'immeuble.
Mais vous comprenez, Maître Bergevin, nous, on pose la question depuis le début si l'immeuble était équipé de détecteurs de fumée. Il n'y a personne qui nous répond. Là, vous êtes le premier à le faire ce matin.
Tous les journalistes qui m'ont appelé, d'accord, qui je leur ai donné la réponse d'emblée. Je suis disponible 24 heures sur 24, 7 jours par semaine à Montréal depuis 23 ans. Donc, il y a juste à me laisser un coup de fil la prochaine fois, je répondrai à votre question.
Je vous ai demandé une entrevue hier, puis vous n'étiez pas disponible.
Oui, mais ça, il y a des contraintes.
Alors, vous n'êtes pas toujours disponible 24 heures, 7 jours par semaine, je pense.
Ben, je réponds, mais vous comprenez que le volume d'appels que j'ai, c'est pas mon seul dossier. Puis, écoutez, j'essaie de l'inscrire dans mon agenda.
OK. Alors, je veux bien comprendre. Là. Vous me dites qu'il y a des détecteurs vérifiés selon les normes et des détecteurs fonctionnels. Est-ce que la centrale que vous avez fait installer ou que votre client a fait installer était branchée directement au service des incendies?
Je ne pense pas que cette centrale-là était branchée au service des incendies.
OK. Ce qui fait que, donc, ce système-là avait quoi comme, je dirais, objectif? Ça déclenchait une alarme dans l'immeuble?
Ben, vous savez, la plupart des immeubles ne sont pas nécessairement branchés, là. Oui, c'est un système, dans le fond, qui vise à alerter les résidents. Il y avait des sirènes sur chacune des étages. D'ailleurs, il y en avait une qui était logée à la sortie de l'appartement de M. Brassard. M. Brassard, j'ai un document que M. Brassard a signé comme de quoi il y avait un détecteur de fumée chez lui. Je vous ai envoyé aussi un échange texto entre lui et le propriétaire qui démontre que M. Brassard, votre témoin peu crédible d'hier, avait deux systèmes de détecteurs de fumée parce qu'il avait refusé qu'on enlève le sien pour en mettre un nouveau. Il voulait en avoir deux. Il a pris le nouveau et il a gardé l'ancien. M. Brassard, à qui vous avez donné la parole, M. Arquin, hier, si vous me permettez, là, je vous ai envoyé les antécédents judiciaires. Il a été condamné récemment à un incendie criminel dans un autre immeuble à revenus.
Mais si on veut faire une bataille de réputation, puis l'idée, là, je n'ai pas envie de m'en aller là-dessus ce matin, là. Mais d'abord, c'est pas mon témoin, c'est quelqu'un qui s'est sauvé d'un incendie dans un immeuble et qui a affirmé des choses. Vous me dites ce matin que c'est pas vrai, qu'il y avait des détecteurs, que monsieur est un quérulant, que monsieur est un locataire qui est pas agréable. Votre client a pas l'air aussi d'un propriétaire qui a l'air agréable. On a eu des témoignages dans Le Devoir parlant d'un propriétaire qui harcèle. Ce matin, dans la Gazette, on parle d'un propriétaire négligent à Westmount, là. On n'a pas un ange comme propriétaire.
Je comprends le portrait, toujours un peu le portrait. On ne connaît pas la vérité. J'étais pas là. Vous n'y étiez pas non plus, là. Mais disons que M. Brassard, là, c'est pas moi qui le dis qu'il n'a pas été crédible, là. Dans la décision de régie du logement, au paragraphe 41 et 48 que je vous ai transmis, là, c'est le régisseur, là, qui conclut que monsieur est un harceleur, que monsieur n'est pas crédible.
Mais je pense
que monsieur se dit harcèlement au bureau de Maître Benhamar. Vous le voyez, je vous ai envoyé une vidéo là, qui occupe le bureau de Maître Benhamar, qui refuse de quitter le bureau de Maître Benhamar.
Mais OK, mais ça, si je vous dis pas que c'est le témoin crédible. Lui, il prétend des choses. Vous me dites que c'est pas vrai, puis on va voir ce que l'enquête. On ne sait pas si le système que vous avez fait, enfin, le propriétaire a fait installer, a fonctionné.
Exact.
Avez-vous entendu des gens dire qu'ils ont entendu une alarme, une sirène?
Il y en a qui auraient dit aux autorités. Quand le feu est arrivé, M. Benhamar a rencontré immédiatement les policiers. Il a fait un croquis, il a donné une déclaration. D'accord? Et à partir de ce moment-là, c'est l'enquête qui se poursuit. Moi, j'essaie d'avoir des nouvelles de l'enquête, j'essaie de collaborer avec l'enquête. Il n'y a personne qui m'a répondu. J'ai énormément d'informations pertinentes à leur donner. D'accord? Et il y a des gens qui auraient dit qu'ils auraient entendu certaines sonneries. Est-ce que c'est la sonnerie centrale? Est-ce que c'est la sonnerie de leur détecteur de fumée? Écoutez, je peux pas vous l'affirmer. L'enquête va le dire.
OK. Je reviens à votre client, Maître Benhamar. Est-ce que c'est vrai qu'il y a un litige actuellement avec la ville de Westmount?
Bon, oui, probablement, mais il faut faire attention quand on fait le procès sur la place publique d'un individu. Il n'y a pas de lien de causalité présentement. On ne connaît pas la cause de l'incendie.
Alors non, mais
que ça soit le pire des individus sur Terre, là, je pense qu'il faut avoir respect envers les victimes et les blessés présentement,
ben,
avant d'essayer de faire l'amalgame simpliste qu'un propriétaire qui aurait été négligent à une autre adresse est plus susceptible d'avoir commis un incendie criminel à une autre.
Mais attendez, Maître Bergevin, là, quand vous parlez d'amalgame simpliste, vous me dites que Brasseur, comme il y a des antécédents, comme il est jugé pas crédible, ce qu'il nous dit est de facto faux. Moi, j'ai...
Non, mais vous ne lui attribuez... Monsieur Arquin, en tout respect, vous ne lui attribuez pas l'incendie. Comprenez-vous que le procès public présentement qui se déroule, c'est d'attribuer la cause de l'incendie à mon client?
Non, moi, je veux savoir quel genre de propriétaire il est. Je pense que c'est d'intérêt public.
Ben regardez, il faut garder les choses dans leur perspective. Là. Émile Benhamar, il y a environ 15 immeubles depuis 15 ans à Montréal, d'accord?
Ouais.
S'il y a eu deux ou trois événements, là, la plupart des gens achètent des maisons unifamiliales pour ne pas avoir à gérer un locataire au-dessus de leur tête, parce que c'est un problème.
OK, mais Maître Bergevin, je vous pose des questions simples. Vous pouvez me répondre, puis vous ne pouvez pas me répondre. Oui. Alors, ma question, c'est est-ce que, oui ou non, il y a un litige avec la ville de Westmount?
Sûrement.
OK. Est-ce que c'est vrai qu'il y a eu des inspections faites par des employés de la ville où on a découvert des problèmes avec des sorties d'urgence, des accumulations de neige sur le balcon et de l'insalubrité dans certains logements?
J'imagine. C'est du business quotidien pour n'importe quel propriétaire d'immeuble qui vous écoute présentement.
D'être négligent puis d'avoir des sorties d'urgence qui ne fonctionnent pas?
Ben, quand vous êtes dans des immeubles patrimoniaux, quand vous êtes dans du construit, là, si vous me disiez, M. Damard construit des immeubles neufs présentement qui ont des problèmes de sortie, je vous comprendrais. Monsieur Damard achète des immeubles qui ont 200 ans. Si vous regardez même la réglementation de la Ville de Montréal, elle en prend compte du fait que le bâtiment est construit. Voulez-vous qu'on rase tous les immeubles qui ont été construits avant il y a 20, 25 ans?
Mais voulez-vous qu'on donne toujours comme excuse que ça fait longtemps que c'est vieux? Moi, je me pose une question. Il y a un immeuble vieux qui flambe dans le centre-ville, dans le Vieux-Montréal, je ne sais pas pourquoi. Puis en même temps, j'ai un propriétaire qui fait l'objet d'inspection puis d'un litige avec une ville concernant de la négligence. Avouez qu'on peut soulever la question?
Bon, on peut soulever la question, mais pas dans un contexte où on a 7 victimes puis qu'on n'a pas la cause de l'incendie de l'immeuble qui est visé, là. C'est trop dangereux, c'est un peu irresponsable, puis c'est juste un appel, comme à tous, de garder son sang-froid, d'accord? D'attendre le résultat de l'enquête, d'arrêter de spéculer sans fondement, d'accord? De ne pas donner la parole à n'importe qui. Je dis, M. Brassard, je vous reproche rien, mais vous avez donné une tribune à quelqu'un qui, manifestement, n'a aucune crédibilité, aucune fiabilité. Ça veut dire que quelqu'un qui voudrait, il voudrait vous dire la vérité, il serait pas capable.
Mais ça, Maître Bergevin, là, d'abord, un, c'est pas parce que quelqu'un a témoigné dans une cause et que son témoignage n'a pas été retenu, que ce qu'il a vécu ce matin-là est faux. Quand il dit qu'il s'est... Alors, je pense qu'il s'est ramassé à l'hôpital au Grand Brûlé, il doit avoir un petit peu de fond de vrai là-dedans.
Ben, sur les blessures, mais après ça, vous voulez le croire sur tout?
Non. Moi, je pose des questions.
Sur les blessures, on va le croire sur les blessures. Oui, habitez-là.
Maître Bergevin, les gens, dans une entrevue radio, ne sont pas sous serment. Les gens, on leur pose des questions et ils répondent. Puis on essaie de donner la parole à différents points de vue, comme je le fais avec vous ce matin. Vous vous dites que ce qu'il a dit,
vous
heureusement, mais vous dites dans le fond, c'est clair qu'il a menti. Moi, je ne sais pas s'il a menti. Je ne sais pas. Je vais prendre votre conseil. Puis
je vous ai dit qu'il avait menti. Monsieur Arquin, je vous ai pas dit qu'il avait menti.
M'avait dit qu'il est pas crédible. M'avait dit que.
Je l'ai dit, il a été condamné pour incendie criminel, la personne que vous avez mis en ligne hier. D'accord?
Okay.
Sa crédibilité vient d'être ébranlée par le tribunal de la régie du logement. On a dit qu'il était harcelant, il était pas crédible, il avait des comportements atypiques. C'est lui qui bloquait les corridors d'accès, les sorties d'urgence. D'accord? C'est lui. Je vous ai envoyé des vidéos.
Êtes-vous en train de me dire qu'il a mis le feu?
Ben, je dirais, objectivement, la police déterminera est-ce que c'est un suspect ou non. C'est
mais
pas moi.
Vous voyez, vous êtes en train de spéculer vous-même sur la place
non,
publique,
vous
sur
la question,
un.
Je vous réponds.
Ben oui,
il était au tribunal. Il était au tribunal la veille de l'incendie. Son bail venait d'être résilié.
OK. Et quel est le lien, le fait qu'il y a un incendie qui s'est allumé dans l'immeuble?
Ben, j'en ai aucun, c'est aux autorités à le déterminer.
OK, mais vous êtes en train de faire des... Non, vous ne donnez pas des faits. Vous me présentez des éléments, puis vous les mettez ensemble, puis vous faites des amalgames. Puis vous m'accusez de faire la même affaire quand je parle de votre propriétaire, de votre client.
Je vous dis simplement, vous avez mis en onde quelqu'un, d'accord? Sans malheureusement savoir qui il était. Et moi, je vous apporte des faits. Lui, vous apportez des intuitions. Moi, je vous donne des faits.
Moi, je suis pas là pour le défendre. Lui, j'ai posé des questions s'il avait entendu quelque chose, des sirènes. Il m'a répondu non. Il m'a parlé de corridors encombrés. C'est ce qu'il a dit, c'est sa version. Ce matin.
Il s'est vidé le cœur, M. Arcan. Je l'ai écouté, votre entrevue.
OK. Là. Mais ça, c'est vous qui portez. OK. Mais moi, je pose des questions sur Émile Benamor, puis j'ai affaire, semble-t-il, à un propriétaire qui souvent a, disons, des problèmes tendu avec certains locataires, a des problèmes avec la ville de Westmount et avec d'autres, semble-t-il aussi.
Mais il a 150 ou 200 portes, M. Arcan. Vous trouvez pas que raisonnable d'avoir quelques problèmes quand on a 200 portes?
Est-ce qu'il n'y a pas eu des démêlés avec la justice, Maître Benamor, concernant de l'impôt non payé, qui ressemblait à de la fraude fiscale? Est-ce que c'est vrai qu'il y a une interdiction de pratiquer le droit fiscal, donc qu'il y a un permis du barreau avec restriction, c'est-tu vrai?
Oui, mais quel est le lien entre ne pas payer ses impôts à une occasion dans sa vie quand on a 60 ans et la cause d'un incendie criminel?
Pas de lien. Pose des questions. Comme il n'y a pas de lien avec le fait d'avoir été un col bleu, d'avoir eu des démêlés avec la justice, puis le fait qu'il y a un incendie criminel. Non, on pose des questions.
C'est pertinent, pourquoi on en parle?
Ben, on veut savoir. On veut juste savoir à qui on a affaire.
Ben alors, il n'a pas payé ses impôts à une date donnée.
OK. Puis est-ce que c'est vrai qu'il a déjà été...
C'est une cause technique, M. Arcand, vous me rappellerez si vous voulez comprendre le fond de l'histoire. Là. C'est une cause très technique en matière de fiscalité. Peu de personnes auraient pensé que ce montant-là était imposable.
OK. Pourquoi le barreau a décidé donc de lui interdire de faire du droit fiscal?
parce qu'il a plaidé coupable à une infraction en matière de fiscalité.
Ouais.
Il n'a jamais pratiqué en droit fiscal. L'interdiction de pratiquer en droit fiscal pour mettre ben amende n'a aucune importance. Il n'a jamais pratiqué en droit fiscal. Il n'a jamais eu l'intention de pratiquer en droit fiscal.
Mais c'est quand même une forme de... Si vous dites qu'il a plaidé à de l'évasion fiscale, c'est quand même... Puis on parle d'un demi-million, là, je pense, autour de ça.
Exactement. Il n'a pas déclaré un montant. Il avait reçu un prêt. Puis les autorités fiscales ont déterminé que quand tu reçois un prêt, à un moment donné, tu dois l'inclure dans ton revenu fiscal.
Est-ce que votre client a l'intention de prendre la parole en public?
Oui, mon client, là, mettez-vous à sa place deux secondes. Mais... On lui attribue sans aucune raison, sans aucun fondement, la mort de cette personne.
Non. Personne qui fait ça.
Ben c'est l'amalgame qui est fait présentement.
Non, les gens se demandent.
Propriétaire parce qu'il est une mauvaise personne, selon certains qui ont peu ou pas de crédibilité, il est plus susceptible d'avoir été la cause de l'origine de l'incident.
Moi, j'ai entendu personne dire ça. J'ai entendu des gens se questionner.
On n'entend personne le dire directement, M. Arcan, mais vous n'êtes pas plus naïf que moi.
Non, mais moi, je pose des questions sur quel type de propriétaire. Et ma question, c'est est-ce qu'il va prendre la parole publiquement?
Éventuellement, il va prendre la parole publiquement. Le monsieur a toujours pris la parole publiquement quand le moment était approprié. Là. Je veux dire, monsieur est plus proche de l'urgence que de vous donner une entrevue au micro.
Qu'est-ce que vous voulez dire?
Imaginez-vous qu'on vous attribue 7 décès là, indirectement. Là. Vous avez une fille du même âge qui était dans... qui a logé l'appel de l'appartement 206.
OK. Juste une dernière question technique, je veux vérifier avec vous. Là. Est-ce que M. Maître Benamor faisait de la location Airbnb dans l'immeuble?
Réponse, non. Cette allégation-là, je l'ai niée au départ. J'ai fourni la preuve à 10 ou 15 journalistes qui ont décidé de ne pas écrire ces faussetés-là. D'autres ont décidé de les écrire. C'est démontré. On avait un locataire, entre autres problématiques, contre qui on prenait des mesures.
OK. Donc, ça veut dire s'il y avait du Airbnb, ce sont les locataires eux-mêmes qui le faisaient.
Exactement.
OK. Parfait. Merci, Matt Bergevin.
Je vous souhaite une belle journée. Je souhaite à tous vos éditeurs de passer la plus agréable des journées possibles. Puis, au plaisir.
On vous souhaite la même chose.
Merci.
Maître Alexandre Bergevin, l'avocat qui représente le propriétaire de l'immeuble du Vieux-Montréal, Maître Émile Benamor. Dans le budget présenté par le ministre Girard, il y a 1 milliard de plus en santé et parmi les objectifs, celui d'opérer le plus de gens possible. Donc, faire en sorte que ceux qui attendent depuis des mois, pour ne pas dire plus, soient vus et traités le plus rapidement donc possible. Ce matin, on a des chiffres qui sont rendus publics concernant l'attente au Canada de façon globale. C'est l'Institut canadien d'information sur la santé qui montre que les retards sont importants. En 2022, 50% des patients qui ont subi une intervention au genou dans le délai recommandé de 6 mois, c'était 70% avant la pandémie. Donc, vous attendez, puis vous êtes dans bien des cas hors délai. Et il n'y a rien à indiquer, là, mis à part les montants qui sont budgétés, si vraiment on va être capable d'accélérer la cadence dans les chirurgies. Le docteur Serge Legault est avec nous, vice-président de la Fédération des médecins spécialistes du Québec. Docteur Legault, bonjour.
Bonjour, Serge.
D'abord, la fameuse liste d'attente. Là. Si on regarde les chiffres, là, on n'est pas dans une courbe inverse. Là. Ça continue d'augmenter. Là.
Ben, pour l'attente depuis plus d'un an, ça a commencé à fléchir. Là. On est rendu à 18 300. Personne ne le dit, là, mais c'est bon pour témoigner de l'effort des gens qui sont en salle d'opération, toutes les équipes. Donc, ça a commencé à fléchir là, avec les mêmes ressources. Là. Donc, c'est une bonne nouvelle. Ça
okay.
témoigne probablement de l'effort de tous.
Quand vous me dites avec les mêmes ressources, là, vous voulez parler de la formule combo, là, c'est-à-dire les hôpitaux et les cliniques privées?
Oui, les CMS, les hôpitaux. J'imagine, là, j'ai pas les détails précis, j'imagine qu'il y a certains hôpitaux qui ont réussi à rehausser le nombre de salles actives. Mais je peux pas vous le confirmer à ce moment-ci. Mais définitivement, là, la liste a atteint la liste de patients de plus d'un an. Là, on parle de patients de plus d'un an. Là. On parle pas de délai raisonnable. On parle de patients de plus d'un an. On a atteint un sommet il y a à peu près 2 mois, 22 000. Là, les derniers chiffres tout récents, c'est 18 300. Donc, c'est quand même une amélioration. C'est quand même des chiffres catastrophiques, même si c'est une amélioration quand même.
OK. Vous me dites que c'est catastrophique, mais ça s'améliore.
Ouais. On on peut voir le verre à moitié vide ou à moitié plein. Là, choisissons ce qu'on veut. Ça veut pas dire qu'il faut baisser les bas.
Non.
Mais des nouvelles méthodes.
Je vous donne un exemple. Il y a quelqu'un qui me raconte là. Pis c'est un exemple. Vous allez me dire peut-être une anecdote là. Ça fait 3 fois que son opération est reportée. Depuis le mois de décembre, ça fait plus d'un an, c'est une chirurgie au pied. Puis là, on lui dit peut-être le 3 avril prochain. Est-ce que ça se produit souvent, des cas de même?
Ça se produit souvent, ça se produit trop souvent, puis ça devrait, entre vous et moi, là, et la boîte à bois, ça ne devrait jamais se produire. On pense à la Fédération de médecins spécialistes, puis je pense aussi au ministère qui sont d'accord avec nous. On pense qu'un patient qui est cédulé ne devrait jamais être cancellé. La politique zéro cancellation, ça a déjà eu lieu dans certains hôpitaux. Puis, pour toutes sortes de raisons historiques, une urgence à opérer, on est obligé de l'insérer dans la salle. La salle doit finir à 4 heures, le personnel quitte, etc. Mais ce patient-là se fait dire, écoute, la gardienne que tu as réservée pendant 4 semaines, puis le travail que tu as cancellé pendant 4 semaines, ben ça compte plus, là. Rappelle tout ce monde-là, là, puis la vie continue. On va te donner une autre date, puis on ne te donnera pas de garantie. C'est des cas qui arrivent souvent. Puis un cas comme ça, c'est toujours un cas de trop.
Je vais essayer de comprendre comment les choses vont se passer dans les prochains mois. Puis je me mets dans la perspective de gens qui attendent, là. On pense, et souvent c'est le cas, on le voit, là, des attentes pour des chirurgiens en orthopédie, genoux ou encore la hanche ou les cataractes. Est-ce qu'il y a, selon ce que vous voyez, une augmentation de la cadence des opérations pour ces patients? Qui on opère actuellement?
Bon, la cataracte et l'ortho, c'est deux dossiers différents. La cataracte, okay, c'est souvent des patients qui nécessitent une équipe beaucoup moins grande. Très souvent, ces patients-là sont opérés avec une anesthésie topique, donc des gouttes dans les yeux. Il n'y a pas besoin d'avoir d'anesthésiste. Donc, l'équipe de support est moins grande. C'est des opérations qui se font très rapidement. Là, un ophtalmologiste de bonne compétence est capable de faire entre 15 et 25 cataractes par jour avec le bon setup. C'est des cas qui se font souvent dans des cliniques médicales spécialisées. L'ortho, c'est pas pareil. L'ortho, ça nécessite souvent un séjour hospitalier. Depuis 2 ans, là, depuis la fin de la pandémie, les orthopédistes ont travaillé très fort pour raffiner leur méthode, pour tenter d'obtenir des résultats où on peut congédier le patient plus rapidement, de façon sécuritaire, mais plus rapidement. On appelle ça le RAAC. Je me souviens plus de l'acronyme en français, mais en anglais, ils appellent ça Early Recovery After Surgery. C'est-à-dire qu'on essaie de congédier les patients le plus vite possible, tout en étant sécuritaire avec d'autres moyens de monitoring, pour justement désencombrer le recours au lit d'hospitalisation. Ça, les orthopédistes ont travaillé très fort là-dessus. Ils ont beaucoup amélioré leur performance au niveau du genou, au niveau des hanches. Tant et si bien que là, on considère que dans certaines cliniques médicales spécialisées, il y a des patients qui vont pouvoir coter pour ça. Fait que c'est un jeu là de vase communicant. Si on les opère dans des cliniques médicales spécialisées, on va libérer de la place à l'hôpital pour des cas qui ont besoin d'hospitalisation. Ça, on le dit depuis longtemps. Les orthopédistes ont beaucoup mis de pression. Avec raison, d'ailleurs, je les comprends. Leurs patients sont souffrants pour avoir accès à ces soins-là.
OK. L'autre chose, quand on parle des cliniques privées, là, les centres médicaux comme ça, puis on a vu des médecins, je pense à ceux de Saint-Jérôme, là, qui ont fait des démarches. Finalement, ils ont obtenu le permis du ministère de la Santé. Beaucoup de mes auditeurs se disent, là, si on commence à ouvrir des centres privés comme ça, même si ce sont des patients du public qui y vont, ben on va vider les hôpitaux, puis le personnel va aller travailler strictement dans ces établissements-là. Est-ce que pour vous, d'ouvrir un centre à l'extérieur de l'hôpital, ça fait mal à l'hôpital?
Non, ça fait pas mal à l'hôpital dans la mesure où il n'y a pas trop d'attractivité du personnel de l'hôpital vers le centre médical spécialisé. Présentement, avec le ministère, la Fédération des médecins spécialistes est en train de faire le tour des hôpitaux où les attentes sont problématiques. Et puis, on a tendance à constater que lorsque l'expérience CMS est diffusée à l'intérieur de l'hôpital, Il y a des gens qui vont aller voir spontanément les cliniques médicales spécialisées pour dire, ben, auriez-vous besoin de mes services, puis démissionner de l'hôpital. Ça, je peux vous dire en toute transparence là que c'est une grande préoccupation du ministère. Et le ministère veut pas là, déshabiller Paul pour habiller Jean. Là. Puis je les comprends parce que théoriquement, les soins devraient être à 100% offerts au public. Je comprends la soupape que le CMS font avec la liste d'attente. Puis je pense qu'il va falloir continuer à s'en servir. Mais il y a une sensibilité particulière qu'on devrait mettre au fait que ça devrait pas être un milieu trop attractif qui fait que ça draine des ressources au public. Ça, on est sur la même longueur d'onde pour le ministère. Puis il y a beaucoup de CMS qui ont eu des intentions de refus de permis justement à cause de cette préoccupation-là. D'ouvrir une clinique médicale spécialisée à côté de l'hôpital, mais de prendre le personnel de l'hôpital pour staffer la clinique, c'est 4,25 sous pour une casse, là. C'est la même chose. Il faut viser une augmentation de la productivité.
Merci, Dr. Legault. Bonne journée.
Bien.
Merci. Au revoir. Dr. Serge Legault, qui est vice-président de la Fédération des médecins spécialistes du Québec.
Vous écoutez L'Essentiel de Paul Arcand en 60 minutes. De retour après la pause. L'Essentiel de Paul Arcand.
Parlons du dossier de l'ingérence chinoise. Ben hier, on a pas mal sursauté quand on a appris que le député Han Dong, un député de l'Ontario, du Parti libéral, quittait le caucus, parce qu'on l'a forcé, mais en tout cas, il quitte le caucus, devient député indépendant après ce reportage présenté par Global, disant que, en gros, il aurait à l'époque conseillé à un diplomate chinois, le consul qui est à Toronto, de retarder la libération des deux Michael qui ont été emprisonnés pendant 3 ans. Et donc, ces informations n'ont pas été confirmées. Global dit avoir 2 sources. J'en parle avec Guy Saint-Jacques, qui est l'ex-ambassadeur du Canada en Chine. Monsieur Saint-Jacques, bonjour.
Bonjour, M. Arcand.
D'abord, j'essaie de comprendre le pourquoi. Qu'est-ce qui aurait amené le député à dire à ce diplomate chinois, « Pressez-vous pas, puis gardez les deux Michael encore le plus longtemps possible. »
Ben c'est ça, c'est difficile à comprendre exactement, puis j'essayais de me replacer dans le contexte où on en était dans le processus d'extradition de Mme Meng en février 2021, puis je pense qu'on était sur le point d'avoir une audience dans la cour à Vancouver pour essayer de démontrer que la requête d'extradition était illégale. Et puis peut-être, c'est ça que quelqu'un, peut-être que M. Han Dong pensait que Mme Meng était pour être libérée. Puis aussi, au sein de l'équipe de Mme Meng, à ce moment-là, je me souviens qu'ils étaient très optimistes. Puis probablement que les gens du consulat chinois étaient au courant de toutes ces discussions-là au sein de l'équipe de Mme Meng. Mais en même temps, moi, je trouve ça un peu farfelu de la part de M. Han Dong de penser que il pourrait influencer le cours des choses parce que c'était un dossier qui était piloté par Xi Jinping lui-même à Pékin, puis c'était clair ce qu'ils avaient dit. Les deux Michael ne seraient pas libérés tant que Mme Meng ne serait pas libérée.
Ben, c'est un peu ça. Pourquoi je me pose la question? Quel est l'intérêt d'aller faire cette démarche, de tenir ces propos, puis quel écho cette déclaration peut avoir auprès des autorités chinoises?
Ben, c'est ça. Moi, je pense qu'il y avait très peu d'influence. C'est sûr que le gouvernement fédéral était désespéré pour trouver un moyen pour libérer les deux Michael. Ça faisait 2 ans et 2 mois qu'ils étaient emprisonnés à ce moment-là, mais je sais qu'ils ont utilisé des intermédiaires, mais je douterais que dans ce cas-ci, il y aurait eu que M. Han Dong aurait été mandaté pour avoir ce genre de discussion-là. Ce serait extraordinaire puis très surprenant. Ceci étant dit, aussi l'autre question qu'il faut se poser, c'est que de quel type d'information aussi, quelle intelligence, comment ça a été intercepté? Est-ce que c'est une conversation téléphonique qui a été interceptée? Est-ce que il y a une source au sein du consulat chinois qui a parlé au service de sécurité canadien? C'est pas clair comment cette information-là a été obtenue et quand exactement.
Je sais pas si vous allez être d'accord, mais on a l'impression qu'il y a comme une espèce de partie de bras de fer entre les services canadiens de renseignement et de sécurité et le gouvernement Trudeau. C'est-à-dire que M. Trudeau ne veut pas d'enquête publique, nomme un rapporteur. Puis entre-temps, ben, il y a de plus en plus de fuites concernant l'ingérence chinoise dans la démocratie canadienne, dans l'espionnage industriel. C'est comme s'il y avait ce face-à-face un peu entre les deux.
Ben, vous avez tout à fait raison. Puis j'ai parlé à des gens à Ottawa, puis je peux vous confirmer qu'il y a beaucoup d'insatisfaction au sein de la machine gouvernementale, au sein des fonctionnaires puis des gens qui s'occupent du renseignement devant l'inaction du gouvernement de M. Trudeau. Puis le problème pour M. Trudeau, c'est que il ne sait pas exactement quoi d'autre qui va faire l'objet d'une fuite. Mais c'est clair que et dans le cas de M. Hamdoun, les autres fuites, ça disait par exemple que son assemblée d'investiture avait été contrôlée par le consulat chinois qui avait envoyé des autobus, des étudiants chinois pour voter pour lui. Puis, en fait, le bureau du premier ministre avait été prévenu pour dire il faut que vous vous débarrassiez de ce candidat-là. Et puis, ce que M. Trudeau a refusé de faire, lors du vote sur le génocide au Xinjiang, M. Hamdoun s'est absenté de la Chambre des communes pour ne pas avoir à voter là-dessus. Quand on met tout ça ensemble, puis avec toutes les autres allégations, c'est clair qu'il y a eu de l'interférence dans les élections. On ne sait pas encore jusqu'à quel point ça a eu l'effet. Moi, je pense que ça a eu certainement de l'effet dans certains comtés. Puis aussi, le problème dans ça, c'est qu'il y a beaucoup de ces discussions-là qui ont cours et de la désinformation. Tout ça se fait en mandarin sur les médias sociaux chinois. C'est qu'il faudrait tirer ça au clair, puis je pense qu'on est rendu au point où la seule façon de le faire, c'est d'avoir une bonne enquête où les gens, les témoins seraient assermentés pour qu'ils disent la vérité, et puis espérer tirer tout ça au clair, et surtout prendre les mesures pour empêcher la répétition de tels événements, parce que là, la Chine doit être très satisfaite de toutes ses activités vu que le gouvernement n'a pas fait grand-chose pour empêcher la répétition de tels gestes, puis ils peuvent continuer à influencer le cours des événements par ici.
Merci beaucoup, M. Saint-Jacques. Bonne journée.
Bonne journée.
Au revoir. Guy Saint-Jacques est l'ex-ambassadeur du Canada en Chine.
Vous écoutez L'Essentiel de Paul Arcan en 60 minutes. Bonne écoute.
Maintenant, Radio-Canada nous apprend au centre de tri de la Chine, on doit malheureusement enfouir des tonnes de verre récupérés parce qu'il y a un bris d'équipement et que l'équipement qui normalement devrait s'assurer là, de nettoyer le verre et de donc pouvoir permettre la vente du verre en question, ben ne fonctionne pas depuis déjà un certain temps. Yannick Lagacé est vice-président aux opérations de la société VIA là, qui gère le centre de tri depuis l'automne dernier. Monsieur Lagacé, bonjour.
Oui, bonjour, M. Arcan.
D'abord, quel est le problème avec l'équipement là, qui est défectueux?
Actuellement, dans le fond, on a le système d'aspiration, si on veut, de matière, entre guillemets, plus légère, qui contamine le verre, dans le fond, qui est actuellement hors d'usage.
OK. Et il est hors d'usage depuis quand?
Il est hors d'usage. En fait, nous, on ne sait pas depuis quand il est hors d'usage. Il était hors d'usage à notre arrivée là, au mois d'octobre. Donc, nous, à partir de ce moment-là, on a fait les démarches, bien entendu, là, pour remettre en marche cet équipement-là. On est en attente actuellement là, des pièces de rechange là, pour pouvoir le remettre en marche.
OK. Et avez-vous une idée à quel moment vous allez pouvoir le faire fonctionner?
On devrait être en mesure là, de le faire là, d'ici la fin de l'été, je vous dirais. On devrait recevoir les pièces là, avant le début de l'été. Puis, évidemment, là, planifier l'intervention, tout ça. Donc, ça prend un certain temps. On devrait être en mesure de faire ça d'ici la fin de l'été. Mais je voudrais juste, en fait, rectifier un petit peu les informations qu'on peut entendre, qu'on peut comprendre, en fait, de l'article. Actuellement, il n'y a aucune tonne de verre qui est enfouie du centre de tri de la Chine. On a la chance d'avoir un excellent collaborateur en Bellemare, abrasif, qui prend actuellement la totalité de nos tonnes de verre là, de ce centre de tri-là, malgré, en fait, une qualité qui est pas au top, disons.
OK, mais là, c'est important. Là, c'est plus qu'une nuance que vous apportez. Là. Vous me dites qu'il n'y a pas, j'allais dire, une bouteille de verre qui a été enfouie?
Depuis notre arrivée au mois d'octobre, au jour 1, nous, on envoie notre verre à notre collaborateur de longue date, Bellemare, à Trois-Rivières. Donc, Trois-Rivières, en fait, là, Bellemare ramasse notre verre, comme le verre de nos autres centres de tri, d'ailleurs. depuis le jour 1 à la Chine. Donc, évidemment, c'est pas l'idéal pour eux, bien sûr. Le niveau de qualité reçu à l'entrée chez eux n'est pas celui-là souhaité. Par contre, ils savent très bien, en fait, la qualité du verre qui peut sortir de là, puisqu'on opère ce même type d'équipement-là dans le centre de tri de Québec, avec lesquels on a un excellent résultat, et ça depuis 2017, dans le fond.
Okay.
Donc, on a déjà l'expérience avec ce type d'équipement-là.
Est-ce que c'est vrai que c'est un équipement fragile? C'est-à-dire que, je dirais pas là, que c'est complexe à entretenir, mais que ça peut briser, puis ça brise souvent?
Je vous dirais, je vous cacherais pas dans le fond que c'est un équipement qui nécessite une attention particulière au niveau des opérations, donc une certaine surveillance et tout ça. Mais juste pour faire un parallèle avec ce qu'on réussit à faire à Québec, c'est qu'on n'a pas eu de bris majeur de plus de quelques heures, voire même peut-être une journée dans 3 ou 4 cas depuis 2017. Donc c'est pas un équipement, lorsqu'on l'utilise de la bonne façon, qui brise nécessairement régulièrement. Pas plus que d'autres équipements dans un centre de tri.
OK. Parfait, M. Lagacé. Merci beaucoup.
Merci.
Au revoir. Yannick Lagacé, vice-président aux opérations de la société VIA. C'est toute une différence avec la nouvelle de Radio-Canada qui disait qu'il y a des milliers de tonnes de verre récupérés qui ont été transportés à l'enfouissement. Et M. Lagacé nous dit que c'est pas vrai, que c'est pas ça du tout. C'est même le contraire.
Vous écoutez l'essentiel de Paul Arcan en 60 minutes. Bonne écoute.
On va parler encore de violence au hockey puis les initiations. La commission parlementaire a siégé. Et ce qui est quand même, je dirais, assez préoccupant, ce sont les propos tenus par Daniel Sauvageau, qui est la co-auteur du rapport qui a été remis en novembre 2020 aux dirigeants de la Ligue canadienne, donc qui regroupe les trois ligues à travers le Canada sur la violence. Puis on a bien compris, là, que ça a été accueilli assez froidement, pas de questions, et c'est comme si on ne veut pas entendre parler de ce qu'il y a dans ce rapport. Elle est avec nous ce matin. Madame Sauvageau, bonjour.
Bonjour, Monsieur Arcan.
Je vous écoutais hier, puis je lisais vos propos aussi, là. L'impression qu'on a, c'est que vous avez travaillé sur cette violence, puis vous venez dire à la Ligue canadienne, voici l'état des lieux, voici comment ça se passe ou comment ça s'est passé, et vous ont posé aucune question, zéro intérêt, quoi.
C'est un peu la résultante qu'on a ressentie, vous l'avez mentionné, on a travaillé près de 3 mois et demi sur le rapport. On a mis beaucoup plus de temps même que le mandat nous en avait demandé. On avait engagé une firme pour s'assurer là de valider, de rencontrer via soit des sondages, des rencontres ou la lecture de mémoire et de recherche le plus de monde possible pour avoir le portrait le plus à jour possible. On en était fiers de ce rapport, du portrait, de la photo. Et lorsqu'on l'a présenté le 5 novembre, vous l'avez dit, pas de questions. Et par la suite, on s'est dit, bon, on va digérer un peu l'état de la situation. On va nous revenir, on va poser des questions. Est-ce que il y a des nuances qu'ils voudraient savoir? Est-ce qu'on voudrait qu'on y aille encore plus loin? Et rien pendant 14 mois, jusqu'au temps que le rapport a été rendu public en janvier 2022, donc 14 mois après son dépôt.
Si vous aviez à dire aux auditeurs et aux auditrices ce matin, là, l'élément le plus important du rapport, ou l'un ou deux ou trois éléments là, vraiment clés là, sur ce que vous avez trouvé en faisant votre enquête?
En fait, c'est 13 constats, 13 recommandations, mais que les comportements répréhensibles lors dehors de la patinoire, de la glace, du vestiaire, l'intimidation, le harcèlement, la discrimination existent en 2020. C'est sûr que ça fait déjà 3 ans que c'est devenu une norme ancrée en raison de la culture systémique. Que c'est difficile pour les gens, que ce soit pour les joueurs, les entraîneurs, les familles d'accueil là, qui nous disent, qui nous ont dit à ce moment-là qu'il y avait près de 45% là été témoins et que dans une proportion de 82% n'avaient pas rapporté. Donc ces chiffres à eux-mêmes là démontrent que c'est difficile de rapporter. Puis vous le savez, avec tous les travaux que vous avez faits, c'est pas aussi facile que ça. Mais en même temps, on a aussi proposé d'avoir de la réflexion, d'avoir de la prévention primaire, comme reprendre les termes de M. Doré cette semaine un peu plus tôt, de dire il faut travailler là-dessus. Et c'est avec cette croyance et cette profonde conviction que Sheldon Kennedy, M. Thériault et moi se sont impliqués et est demeuré disponible par la suite pour dire il y a des choses à faire, on doit continuer, on se doit avec la persévérance de dire qu'à un moment donné, on va arriver à un niveau que les jeunes vont comprendre c'est quoi des comportements acceptables et qu'est-ce qui ne l'est pas non plus, et ainsi que les intervenants autour.
Mais là, je veux que ça soit bien clair, là, ce que vous avez trouvé, là, ce sont des événements récents. Là. On ne parle pas d'événements, par exemple, d'initiation dans un club en Ontario en 1991.
En fait, vous faites bien de le mentionner, nos travaux étaient sur 3 ans. Donc, de 2017, en fait, à 2020.
OK.
Juste le registre que vous parlez ou des événements, la Ligue junior majeure du Québec là disait qu'il y en avait répertorié là entre 12 et 18, aucune en Ontario et deux seulement dans l'Ouest. Alors oui, ce sont des événements récents sur lesquels on s'est penché. On voulait vraiment avoir un portrait à jour.
Mais moi, j'entendais M. Courteau me dire que c'était de l'histoire ancienne, que la Ligue de hockey junior majeur du Québec avait déjà depuis plusieurs années un code d'éthique, de déontologie, je ne sais pas comment l'appeler, là. Mais là, vous me dites que malgré ça, il y a eu un bon nombre d'événements là, récents.
Selon ce qu'on nous a rapporté, au risque de me répéter, ouais. Dans les rencontres et le sondage, ça existe en 2020, lorsqu'on a déposé le rapport des comportements répréhensibles en dehors de la classe. Existait ou existe en 2020 au sein de la Ligue canadienne de hockey junior.
Merci beaucoup, Mme Sauvageau. Bonne journée.
Merci, bonne journée.
Au revoir, Daniel Sauvageau, qui témoignait hier devant cette commission parlementaire à Québec.
C'est 23.